Bonjour à toi, Warrior, qui nous écoute depuis peu ou depuis toujours. Yes Podcast a besoin de toi pour continuer d'exister. Et oui, on en a parlé dans l'épisode 52, depuis 2 ans, l'existence de ce podcast repose sur le travail gratuit des femmes, en l'occurrence nous. Vous êtes plus de 10 000 auditeuristes à nous écouter chaque mois. Si vous mettez tous 1 euro, ça peut nous changer la vie. Et si tu ne peux vraiment pas, n'hésite pas à partager notre appel ou à nous mettre une pluie d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle De la force pour les warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
Yes!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Podcast Factory.
Bonjour à vous, on est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Yes, le podcast de Warrior. Et pour démarrer, on a une grande nouvelle à vous annoncer. Désormais, on vous proposera non plus un, mais 2 épisodes par mois. Du coup, ma punchline de démarrage a changé. À partir de maintenant, je dois dire 2 fois par mois, on célèbre les victoires de meufs contre le sexisme. Et ça nous fait un bien fou. Je suis Anaïs et ce podcast, je l'anime avec les désormais célèbres Margaïde. Salut Marga.
Hello, je suis très excitée d'être là avec vous aujourd'hui.
Coquine. Et salut Elsa.
Ah là là, ça commence. Salut, salut.
Dans ce 7e épisode, on va parler de sexe. Je vous avoue que j'avais particulièrement hâte de traiter ce thème. La sexualité, c'est un des sujets, de mes sujets de conversation préférés. Il était donc grand temps qu'on en parle. En revanche, attention, on sait que certaines et certains d'entre vous nous écoutent avec leurs enfants. Et pour cette fois, exceptionnellement, on vous avertit, on va parler cru, on va parler cul, on va parler très très cru. Attention donc aux petites oreilles sensibles.
Oui, là c'est le danger. Hein.
Donc l'avertissement étant fait, voilà le topo. L'accès au plaisir, c'est comme ça qu'on a nommé cet épisode quand on a imaginé le podcast au tout début avec Elsa et Marga. Entre femmes, on se parle et on sait toutes que le plaisir, c'est souvent loin d'être une évidence. Que c'est pas simple de se connaître dans un monde où le corps féminin est diabolisé, où le clitoris est absent des programmes d'éducation sexuelle, un monde qui a longtemps considéré qu'une femme qui jouit n'est pas normale, bref, un monde où les pratiques sexuelles reflètent les enjeux de la société patriarcale. Cette société, elle nous impose des normes dont il est très difficile de se débarrasser, et ces normes, nos warriors les ont littéralement brûlées pour leur plus grand plaisir et du coup aussi pour le nôtre. Du cours d'anatomie nocturne à la grève de la fellation, elles se battent pour prendre leurs pieds et elles ont bien raison. On va donc parler de préliminaires, de consentement, de clitoris, de sperme aussi, de contraception, de capote, bref, de choses dont on doit parler pour vivre une sexualité épanouie, détendue, respectueuse de soi et des autres, et donc non-violente. Et j'insiste sur ce mot « non-violente ». On ne va pas pouvoir tout évoquer parce qu'il faudrait faire un épisode d'une durée de 8 jours, mais promis, dans cet épisode, on va vous faire vibrer. Donc on sait que vous avez super hâte, mais pour commencer, c'est notre rituel, on vous présente le feedback d'une auditrice. Elsa.
Oui, alors il y a Minute Simone sur Twitter qui nous a écrit « On va écouter Yes Podcast que j'aime beaucoup, le podcast des femmes warriors qui ont mouché un mufle, fait fuir un agresseur ou corrigé leurs proches qui disaient des trucs sexistes, galvanisant et inspirant. » Emoji, point levé, emoji, doigt d'honneur, emoji, étoile dans les yeux. Merci Minute Simone pour ton feedback, c'est super cool. N'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux, ça nous fait vraiment super plaisir d'avoir vos retours.
Et c'est hyper galvanisant de voir que ça vous fait autant de bien qu'à nous.
Ouais, vraiment.
C'est super touchant. Sans transition... Marga, tu nous présentes la première warrior.
C'est parti avec Cécile qui va nous parler un peu de sa découverte du plaisir sexuel, un long apprentissage semé d'embûches. Et pour Cécile, ça a commencé quand elle avait 8 ans et qu'elle était toute seule dans sa chambre.
Posée sur mon lit à l'endroit E, il y avait un petit dragon en plastique.
Et sa petite crête qu'il avait sur sa tête a touché pile mon clitoris, quoi. Ok, qu'est-ce que c'était que ça? C'était super cool. Et du coup, c'est à partir de ce stage-là que j'ai commencé à me masturber par l'extérieur, quoi. Et ça a commencé à me poser pas mal de questions quand j'entendais des filles de mon âge, donc là, on arrive au niveau du collège, quoi, commencer à parler de masturbation. Et c'était plutôt des mots du style se doigter et tout ça. Et moi, j'étais assez perplexe parce que je trouvais que ça ressemblait pas trop à ce que je faisais. Quand j'ai grandi et que j'ai commencé à avoir des relations sexuelles, j'avais intériorisé malgré moi plusieurs choses. De un, que le sexe était forcément mieux avec un garçon que toute seule. De deux, qu'un orgasme obtenu par pénétration vaginale avec un pénis serait forcément mieux que ceux que j'arrivais à avoir toute seule. Et de trois, comme c'est la nature, nos corps sont faits pour ça, et donc je pensais que ça viendrait tout seul, quoi. Et malheureusement, les gars avec qui je sortais, ils étaient dans le même état d'esprit, quoi. Ils n'en savaient pas forcément plus que moi. Et le problème, c'est que ça a pourri, vraiment pourri, deux de mes relations longues. La première, c'était plutôt vers la fin du lycée. Mon copain, il éjaculait assez rapidement, et même s'il me faisait à chaque fois des cunnilingus qui m'amenaient à l'orgasme, lui il disait que c'était pour compenser, et de temps en temps il se mettait à chialer parce qu'il se sentait pas vraiment un mec parce que j'avais pas d'orgasme pendant la pénétration, quoi. Et la deuxième relation que ça m'a pourrie, ça a été encore plus vicieux parce que j'avais commencé à m'en vouloir à moi-même. Je me disais t'arrives pas. C'est toi qui as un problème, quoi. J'étais presque à penser que j'avais une malformation, quoi. Je me disais, ça doit pas être difficile, essaye de te concentrer. Ou alors essaye de pas du tout y penser pour pas te mettre la pression. Enfin, je me sentais un peu nulle, surtout que j'ai toujours parlé de sexe hyper facilement et je me sentais un peu comme une fraude qui cause beaucoup mais qui sait pas faire, quoi, que de la gueule. Et un jour, je regardais un petit film pornographique. L'actrice, la femme qui était présente dans ce petit film se touchait le clitoris tout en étant pénétrée par son partenaire. Et je me suis dit, mais voilà. Et donc, ni une ni deux, la prochaine partie de jambes en l'air, j'essaye avec mon copain, quoi. Je commence à me toucher et là, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, t'as pas besoin de moi, en fait. Et donc, je me suis excusée, j'ai pas recommencé. Et on s'est séparés genre une année plus tard en n'ayant eu aucune relation sexuelle pendant cette dernière année. C'était génial. donc voilà, un petit peu l'historique. Mais l'histoire se finit bien parce qu'aujourd'hui j'ai un amoureux qui est super content que je me fasse plaisir et qu'on se fasse plaisir ensemble, quel que soit l'art ou la manière, quoi. Donc c'est une victoire de ce côté-là.
Mais incroyable sa réaction.
Waouh, t'as pas besoin de moi.
Eh ouais, les pauvres hommes fragiles.
Ah, mais moi j'ai des mecs qui m'empêchent de me toucher pendant l'acte, hein, qui vraiment se collent à moi, me bloquent la main et tout. Il y en a qui le vivent très mal alors que. Enfin, c'est comme ça que ça marche, quoi.
C'est grave.
Mais pourquoi? Non, mais moi j'ai adoré ce témoignage parce qu'en fait je me suis beaucoup reconnue là-dedans. Parce que quand j'ai eu mon premier orgasme avec un garçon, en fait, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais eu plein d'orgasmes dans ma vie. En fait, j'attendais la révélation de la bite qui n'est finalement pas vraiment venue. Je me dis, mais ah ouais, en
la
fait, c'était ça. Et je me rendais compte qu'en fait j'avais eu des tas d'orgasmes, mais depuis toute petite. Et il y a un énorme tabou quand même autour de la masturbation
féminine et
notamment des petites filles. Ouais. Alors que quand on discute entre copines, on se rend compte qu'on a toutes finalement. On se rend compte qu'on a eu des plaisirs solitaires très très jeunes.
Alors que chez les garçons, c'est évident pour tout le monde que les garçons se touchent, mais en fait, on n'ose pas le dire. Je sais que c'était un sujet ultra tabou, mes copines, on n'en parlait pas du tout. Je crois que la première fois que j'ai eu cette conversation, j'avais 20 ans.
Enfant, on a déjà intériorisé le tabou.
Oui, complet.
C'est incroyable.
Ça. Enfin, je sais pas vous, mais moi j'avais mon petit nounours qui me servait à ça, quoi.
Moi j'aime bien le sextoy dinosaure de
sa petite crête.
Cécile. Mais du coup, voilà. Enfin, s'il y a quelque chose aussi à dire, peut-être c'est rappeler que en fait, quand on est enfant, découvrir son corps et donc notamment son sexe, c'est tout à fait normal et qu'il faut surtout pas culpabiliser les petites filles en leur disant que c'est sale ou que c'est honteux. On peut effectivement leur expliquer que bon, c'est plutôt des choses qui se font en privé, leur expliquer qu'elles ne doivent pas laisser personne, mais vraiment personne ne peut toucher leur sexe sans leur consentement et qu'elles n'ont pas non plus évidemment le droit de toucher le sexe d'autres personnes sans leur consentement.
Tout à fait.
Mais sinon, voilà, considère ça comme quelque chose de qui fait partie de la découverte de soi.
Bien sûr.
Tout à fait.
Et qu'il n'y a pas de mauvaise technique non plus, parce que visiblement, elle a cru que sa technique à elle la limitait, alors qu'en fait, chacune trouve son plaisir comme elle le peut et comme elle le veut. Carrément. Donc il n'y a rien qui ne soit pas valable, en fait.
C'est ça, et notamment en utilisant son clito, parce que c'est quand même l'organe le plus puissant
en termes de... C'est le seul organe dédié au plaisir.
Exactement, et je crois que Anaïs, tu nous as préparé un petit cours d'histoire.
Tout à fait.
D'histoire.
Professeur Anaïs. Donc, est-ce que vous êtes prête? L'histoire
allez,
du clito.
Allez,
alors,
c'est parti.
Je vous la fais très courte parce qu'en fait, l'histoire, elle est longue et tortueuse. Mais donc, en gros, jusqu'au Moyen-Âge, on croit que pour tomber enceinte, une femme doit avoir un orgasme. Du coup, à cette époque, on s'occupe à fond du clito.
Une belle époque.
Une belle époque. Après, on dit que le Moyen-Âge, c'est une époque sauvage, mais pas tant que ça,
pas
finalement.
Tant que ça, hein.
Donc on s'occupe à fond du clito et le Graal carrément c'est d'avoir un orgasme simultané avec le partenaire. Donc autant dire qu'à l'époque on s'en sortait pas trop mal. Et en 1559, un médecin découvre entre guillemets le clito, le nomme et le dessine. Donc bon voilà, c'est encore un mec qui croit découvrir l'Amérique parce que toutes les femmes étaient au courant a priori, Christophe Colomb. Puis on va commencer à se douter du fait que en fait on peut tomber enceinte sans orgasme et donc là c'est la débandade absolue. Non seulement on zappe le plaisir féminin mais en plus on le diabolise. Donc ça part totalement en zboub. On commence à croire que le clito, c'est en fait une malformation, genre une bite ratée. Donc on l'enlève. On mutile particulièrement justement les petites filles qui se masturbent, puisqu'on les diabolise à fond, on en revient là. Donc c'est les débuts de l'excision, et ça ne se passe pas en Afrique, mais en Allemagne. Donc là, normalement, il y a des racistes qui s'étouffent. Donc ensuite arrive Freud, ce fils de rien. Franchement, je le hais, ce mec.
Mais grave.
En 1905, il invente et impose au monde entier l'orgasme vaginal, qui n'existe pas, soyons très clairs. Tout orgasme féminin est forcément clitoridien, puisque le clito, c'est pas seulement le petit gland tout mignon qu'on sent à l'extérieur, c'est aussi les bulbes à l'intérieur qui se gonflent de sang quand on est excité.
Tapez
et qui...
clitoris modélisation 3D
voilà,
dans Google.
Il faut vraiment aller voir ça. C'est pas du tout si petit que ce qu'on croit. C'est un gros organe, très complètement chambé. Donc Freud, grâce à toi, des millions de femmes sont persuadées de ne pas être normales. J'envoie donc un message à l'intention du monde entier. Si tu connais l'orgasme clitoridien, c'est que tu connais l'orgasme. Point. Et si tu ne le connais pas, c'est pas grave. Donc voilà comment un homme seul a réussi à niquer la sexualité de millions de femmes. Belle performance.
Merci Freud.
Et dernier épisode, en 1930, le monde médical tombe enfin unanimement d'accord sur le fait que non, orgasme et fécondation ne sont pas liés. Et devinez comment ça réagit à cette confirmation dont tout le monde se doutait déjà. Eh bien, on supprime carrément le mot clitoris du dictionnaire.
Ah bah oui, du coup, ça sert plus à rien.
Bah voilà, ça sert plus à rien. Si c'est juste pour le plaisir,
c'est comme le mot
tu dégages.
Race. On peut enlever des mots comme
exactement.
Ça.
Exactement. Donc, heureusement, ces dernières années, on commence à avoir des modélisations 3D du clito, des visuels pour les livres d'anatomie, les manuels d'éducation sexuelle. Ça arrive petit à petit. Il y a aussi plein d'artistes et d'illustratrices qui s'y mettent. Et c'est la meilleure nouvelle du siècle.
Ouais, c'est devenu tendance, le clito.
Complètement. Et c'est une excellente nouvelle parce qu'il est temps qu'on se connaisse et que tout le monde connaisse le clitoris, en fait. Cet organe est magique.
Merci, mon clito.
Merci.
Petit point clit. Du coup, Elsa, tu nous présentes notre seconde warrior.
Ouais, alors là, attention, quoi. Franchement, Camille, c'est une méga warrior. Elle a décidé qu'elle en avait marre de faire des fellations à des mecs qui ne lui renvoyaient pas la balle. Je vous laisse écouter son témoignage et on en parle après.
Je m'appelle Camille, j'ai 34 ans et depuis toujours, j'ai une sexualité très libérée. Je vis le sexe comme quelque chose de ludique, comme une exploration qui me permet de rencontrer des gens intéressants la plupart du temps. D'en apprendre sur les relations humaines et d'en apprendre sur moi et sur mon corps. Je défends vraiment l'idée que chacun est libre de son corps et peut s'en servir comme il veut, notamment comme un outil de plaisir. Très jeune, je me suis rendu compte que les gens, surtout les hommes, parlaient de ma façon de vivre le sexe comme étant masculine, c'est-à-dire anormale pour une femme, comme si on pouvait genrer la manière de vivre sa vie sexuelle. C'est évident que dans la société, la sexualité des hommes et des femmes est perçue différemment. Mais il y a une chose qui m'a toujours frappée, c'est le fait que les hommes trouvent naturel que les femmes pratiquent la fellation. C'est un acte qui est vu comme automatique, c'est souvent l'entrée en matière de l'acte sexuel, alors qu'il est très rare que les hommes pratiquent le cunnilingus spontanément, surtout lors des premiers rapports. Pareil pour la masturbation, c'est comme s'ils avaient peur que ça morde, souvent il faut demander, ou alors le cunnilingus est utilisé comme une monnaie d'échange pour obtenir une fellation, bref, c'est un sujet qui me travaillait énormément. J'ai voulu tirer ça au clair, alors j'ai fait une petite expérience pendant quelques mois il y a quelques années. Puisqu'on disait que ma sexualité était plutôt masculine, j'ai décidé de me comporter comme un homme. J'ai arrêté de pratiquer la fellation ou la masturbation jusqu'à ce que l'homme pratique de lui-même un cunnilingus ou me masturbe, sans prévenir mes partenaires. Donc comme vous pouvez le deviner, ceux qui sont descendus tout seuls comme des grands ou qui m'ont caressé sans que je demande quoi que ce soit sont vraiment peu nombreux. Pour le reste, j'ai eu des réactions diverses. Certains m'ont demandé une fellation pendant le rapport, que j'ai refusé en suggérant qu'ils descendent en premier, avec plus ou moins de succès. Certains ont attendu la fin du rapport pour me demander si j'aimais ça. J'ai eu beaucoup de conversations intéressantes et je pense que la majorité de mes partenaires se sont vraiment rendu compte qu'il y avait un déséquilibre au niveau du sexe oral. Et ce qui est ressorti de ces conversations, c'est que beaucoup d'entre eux ne le font pas parce qu'ils ont peur de ne pas savoir ce qu'il faut faire, ils ont peur de mal faire, ils ont peur de ne pas être doués, ils trouvent qu'on ne les guide pas assez, ils ont peur de ne pas être à la hauteur. Bref, il y avait beaucoup de doutes et de peur dans toutes ces conversations. Mais j'ai surtout eu le cas où un mec m'a dit avec un air de dégoût « Ah non, mais moi je fais pas ça, je trouve ça dégueulasse ». Il m'a vraiment regardé comme si je lui avais demandé de lécher une barre de métro. Il trouvait vraiment ça hyper sale. Et là, ma réaction a été immédiate. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit « Mec, je m'épile parfaitement. Je me lave un minimum d'une fois par jour. Je me lave toujours le sexe avant un rapport. Je mets des sous-vêtements propres. C'est loin d'être le cas de l'immense majorité des mecs. Donc si tu trouves ça dégueulasse, c'est pas parce que faire un cunni est dégueulasse, c'est parce que t'as un problème. » Et sur ces belles paroles, j'ai pris mes affaires et je suis partie. J'étais hors de moi parce que ce mec trouvait normal que je mette son sexe dans ma bouche, mais pas l'inverse. Et je n'ai jamais recontacté cette personne et je souhaite bien du courage à ses futurs partenaires. J'ai arrêté ma grève de la fellation peu de temps après. Ce que ça m'a appris à demander mieux ce que je voulais, à lancer une conversation sur le sujet et mieux faire comprendre à mes partenaires qu'on n'est pas là pour se juger. On est là pour échanger, on est là pour partager, on est là pour kiffer. Et quand la personne est ouverte à la discussion, ça peut vraiment devenir intéressant et c'est là qu'on peut vraiment commencer à se découvrir.
J'entre en grève de l'appellation immédiatement.
Allez, c'est parti
tout de suite.
Allez les Warriors, c'est parti, on lance le mouvement national de la grève de l'appellation.
J'adore.
C'est trop bien. Bah, merci Camille, bravo pour ton initiative. Moi, j'encourage toutes les Warriors à faire valoir leurs droits au CUNY.
Complètement.
Je trouve ça assez dingue, hein, ces histoires de scénarios de sexualité où, qui sont très inspirées du porno, où effectivement c'est toujours la même chose. Ça commence par une fellation et ça finit par.
Une fellation.
une levrette, une éjac faciale, tout ce que vous voulez.
Et surtout, en milieu, un coït où le mec, on dirait une pendule, quoi. Tac,
ouais,
tac,
voilà,
tac, 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 tac.
Et où le clitoris n'est pas beaucoup stimulé en général.
Voire pas du tout.
Voire pas du tout. Bah oui, à quoi ça sert? Et voilà, et après, ce qui est dommage aussi, c'est le manque de communication entre les partenaires, parce qu'il y a quand même des mecs qui sont de bonne volonté, on va dire, mais c'est vrai que c'est pas évident de lancer la conversation, d'arriver à parler de son propre plaisir, surtout quand on se connaît pas soi-même.
Et puis surtout quand t'as des réactions dans le genre.
Quand t'as des réactions dans le genre, c'est vraiment, vraiment très, très chaud. Oui. Moi, j'ai découvert un site qui est très intéressant et que je vous recommande, c'est Oh My God Yes. Donc OMG Yes. En gros, c'est des tutoriels de masturbation féminine. Et c'est super marrant parce qu'en gros, voilà, elles sont allées voir tout un tas de femmes, vraiment des femmes normales, c'est pas du tout des actrices porno ou quoi que ce soit. Hein. Et elles leur ont demandé, bah, toi, comment tu te touches, qu'est-ce que t'aimes, etc. Et elles racontent et elles font vraiment un tuto. Et il y a même une application où on peut tester, où on peut bouger avec son doigt et ils vous disent « Ah oui, c'est bien comme ça qu'elle a expliqué, etc. etc. » Donc voilà, moi j'avais pris un abonnement pour la saison 1, mais ils ont refait encore des nouvelles vidéos après, je crois.
C'est combien l'abonnement ?
Moi je crois que c'était 30 euros, mais en fait c'est pas un abonnement tous les mois, c'est tu payes une fois et après t'as accès en illimité à un certain nombre de vidéos. Donc c'est comme si t'achetais un DVD en fait, c'est pas, c'est pas tous les mois.
Et ça vaut le coup quoi, ça vaut.
Et franchement ouais, ça vaut le coup et je pense que c'est le genre de truc aussi que on peut regarder avec son mec, qu'on peut voilà. C'est vraiment du tutoriel quoi.
Mais genre tu vois la meuf se toucher.
Ouais et elle te regarde et elle explique. Là tu vois c'est bien, là comme ça, c'est en gros plan et tout. Genre c'est limite, c'est un peu malaisant des fois parce que tu dis mais attends, on se connaît pas. Mais franchement, je trouve que ça vaut le coup, franchement. Enfin, c'est vachement bien. Et surtout, le fait que ce soit pas du tout genre des actrices porno ou des filles qui correspondent à ces stéréotypes, Je trouve que c'est cool parce qu'on peut vraiment s'identifier. N'importe qui, je pense, peut s'identifier. Ouais. Tu peux trouver au moins une fille à qui tu vas t'identifier. Il y a vraiment, enfin, il y a tout type de femmes qui sont représentées.
On a une copine qui est allée il y a pas longtemps participer à un atelier sur l'éjaculation féminine et où l'instructrice, je sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelle, montre par l'exemple comment ça se passe. Elle me dit la prochaine fois tu me préviens, je veux aller voir ça, je veux savoir comment ça se passe.
Trop drôle. Et sinon, ouais, je voulais faire un petit point sur la préparation parce qu'elle en parle, elle dit voilà, moi je m'épile, je me lave avant le rapport, etc., etc. Et je trouve que quand même, enfin, dans ce que j'ai pu remarquer, la majorité des femmes passent un temps fou à s'épiler, ouais. Mettre de la crème pour sentir bon et doux et être douce, se maquiller, etc. Quand elles savent qu'elles ont une date. Peu importe d'ailleurs si elles sont sûres qu'il va se passer un truc ou pas, mais dans l'opportunité, au cas où, alors qu'effectivement, les mecs ne font pas forcément la même chose. Les mecs sont vachement plus dans l'improvisation. Mmh. Genre, j'ai rien à faire ce soir. Ah, pourquoi pas, au pire, je peux aller la rejoindre après si j'ai rien d'autre à faire. Mais je veux dire...
Il y en a de plus en plus qui s'épilent, mais en termes d'investissement sur la désirabilité, on n'est pas encore à égalité. Quoi.
Voilà. Et moi, j'ai déjà vu des copines refuser une soirée avec des amis parce qu'elles me disent, il faut que j'aille m'épiler parce que je vais peut-être voir mon plan cul ce soir.
C'est fou, en fait. Les...
Donc, rendez-vous
compte. Comment on s'empêche de vivre juste pour avoir l'air épilé.
Donc, je pense qu'on peut aussi faire la grève de l'épilation, en plus de la grève de la fellation.
Il y a beaucoup de grèves qu'on peut lancer.
Vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et laissez-vous vivre.
La grève de l'hétérosexualité, ça peut être bien.
C'est clair. Et laissez-vous improviser aussi, quoi. Je veux dire, vous pouvez très bien être tranquille avec vos amis. Et s'il y a un mec qui vous contacte et que vous avez envie d'aller le voir, allez-y. Et sinon, non. Enfin, en plus, souvent, les mecs, si vous leur dites « Ah, désolé, je suis pas épilée », ils vont dire « Mais je m'en fous, c'est bon, quoi. » Enfin, évidemment, il y a des gros connards qui vont dire « Ah, quoi ? Attends, c'est inacceptable. » Mais franchement, si un mec dit ça, enfin...
Faut juste pas...
Allez-vous-en, quoi ! Je veux dire, c'est pas chien, possible, ouais. C'est un malade mental.
Bonsoir, Béquille.
Et du coup, oui, et aussi, vous pouvez aussi vous acheter des lingettes intimes, vous balader avec, au cas où, si vous voulez, vous laver, entre guillemets, enfin... Mais bref, moi je dis, grève de l'épilation, improvisation pour les femmes autant que pour les hommes. Il n'y a pas de raison qu'on passe 4 heures à se préparer pour un rendez-vous qui peut-être sera annulé à la dernière minute parce qu'il doit aller voir un match de foot avec ses potes.
Et qui peut-être sera ultra décevant aussi.
Ouais, exactement. C'est ça, genre le mec, il ne sait pas ce que c'est un cunnilingus, par exemple.
Donc tout ça pour ça, on va aller mieux regarder des séries avec ses copines et faire sa vie, en fait.
On va aller boire des bières.
Voilà. Par exemple.
C'est l'alcoolique qui parle.
On passe à Dorothée, la seconde warrior. Dorothée, elle a identifié un problème super récurrent dans la sexualité entre hommes et femmes qui va forcément vous parler si vous êtes une meuf hétéro. Et donc, elle a décidé d'échanger les rôles. Je la laisse nous raconter ça.
Alors, il m'est arrivé avec mon partenaire actuel ou mes précédents partenaires d'arrêter notre rapport sexuel au moment où j'avais joui. C'est-à-dire de faire exactement ce que je suppose une grande majorité de femmes est habituée à vivre de la part de leur partenaire qui considère que le rapport sexuel doit prendre fin quand ils ont joui. Et j'avoue, déjà, je les comprends. Ça peut faire du bien de s'allonger et de s'endormir directement après avoir eu un orgasme. Mais c'est surtout peut-être par provocation que je l'ai fait pour leur montrer ce que ça fait de rester sur sa faim et combien ça me paraît pas logique que tout le monde considère ça normal et pour les faire réfléchir et prendre en compte un peu plus ce que les femmes peuvent ressentir. Parce que je pense qu'il y a aussi un effort à faire de notre part, les femmes, pour s'exprimer, dire et montrer ce qui peut être amélioré dans un rapport sexuel qui est censé se faire à deux et pour le bien des deux. D'ailleurs, l'un de mes partenaires l'avait pas forcément bien pris et m'avait demandé de pas le laisser dans cet état-là. Je lui avais répondu, bienvenue dans le monde des femmes.
Et oui, tu vas survivre, ne t'inquiète pas.
Tu as ta main, sinon au pire.
Voilà.
Mais c'est un sujet qu'on évoque pas mal avec mes copines depuis 2-3 ans, parce que c'est vrai que c'est exaspérant.
Ah ouais.
C'est super rare qu'un homme s'occupe encore de toi une fois qu'il a éjaculé, et genre ça leur semble le plus normal du monde, alors que toi t'es frustré 3000. Donc, on n'est pas en train d'exiger que les hommes remettent le couvert 6 secondes après l'orgasme, parce que oui, on peut être crevé, mais il me semble qu'ils continuent d'avoir des doigts et une langue fonctionnelle. Donc, on peut même mettre une pile dans un sextoy si jamais on a vraiment les batteries à plat.
Et ouais,
mec.
Ou ils peuvent se laisser faire aussi.
Aussi.
Tout simplement, servir de cobaye, de mannequin, de...
le petit pilou-pilou, là.
Voilà, de peluche. Bah, ça marche bien aussi, hein.
Donc, au-delà de ce stop immédiat, il y a aussi le fait que beaucoup d'hommes ne cherchent même pas à donner un orgasme à leur partenaire. Et Diane Saint-Roquier, qui est derrière le super blog Sexy Souci, parle à ce sujet d'orgasme gap, c'est-à-dire l'inégalité entre les femmes et les hommes dans l'accès à l'orgasme. Et alors là, je vous donne des petits chiffres d'une étude récente menée aux États-Unis sur je ne sais plus combien de milliers de personnes, mais qui fait référence maintenant. 95% des hommes hétéros affirment avoir un orgasme à tous les coups, à tous les rapports, contre 65% des femmes hétéros, donc on a quand même 30% de différence, alors que les femmes lesbiennes, elles sont 86% à atteindre l'orgasme à chaque relation sexuelle. Donc comme quoi, le pénis n'est pas la condition sine qua non du plaisir, alors que la connaissance du corps féminin, si. Et là, j'en connais qui doivent être en train d'hyperventiler. Donc parmi les causes de cet orgasme gap sont souvent évoquées le manque de stimulation manuelle et donc d'excitation ou de lubrification, mais aussi le stress ou l'image de son propre corps. Bref, on n'est pas tous égaux face aux zizirs. Et il est temps que tout le monde s'occupe de corriger le tir. Donc parmi les pistes d'amélioration possibles, je fais un petit tuto, la plus évoquée c'est l'augmentation du sexe oral. Des stimulations manuelles mieux maîtrisées, s'il vous plaît, merci. Ceci n'est pas un interphone. D'intenses baisers, et on va l'évoquer, on l'a déjà évoqué mais on va en reparler après, le fait d'oser dire ce qu'on aime, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Donc on y reviendra, mais d'ici là on va écouter la prochaine Warrior.
Maintenant, on va parler de Lisa et on va aborder un sujet qui est un peu plus douloureux. Une histoire qui va sûrement parler à beaucoup d'entre vous, puisqu'il est question de se forcer un peu, voire beaucoup, pour faire plaisir à son partenaire. Et malheureusement, je pense que c'est quelque chose qui est arrivé à énormément de femmes, voire peut-être toutes les femmes. Ici, il va être question de viol conjugal. On propose à celles qui pourraient être sensibles à ce genre de témoignage de faire un bond de 5 minutes dans l'écoute et de passer à la warrior d'après, si elles n'ont pas envie de l'entendre. Lisa raconte sa relation avec son compagnon. Je vous laisse l'écouter.
J'ai essayé de régler le problème en me forçant un peu, quoi, en me disant que bon, bah, ça sera ce qu'il faut. J'ai toujours entendu que bah, les hommes ils ont plus d'envie et que... c'est compliqué pour eux la frustration sexuelle et bah, c'est moi la femme frigide, donc c'est moi qui suis chiante dans cette histoire. Sans que je m'en rende compte, j'ai laissé vraiment en fait un climat d'harcèlement s'installer et l'électrochoc en fait il a eu un lieu une fois où nous étions en train de coucher ensemble alors que j'en avais pas envie. Je me suis juste mise à pleurer en fait d'un coup. J'avais plein de larmes qui coulaient et je pouvais rien contrôler. Et lui, il réalisait rien. Alors, on était dans le noir, mais donc il pouvait pas réaliser. Mais en fait, il avait même pas vu avant ça qu'il avait vu aucune de mes hésitations. C'était assez glauque. Je me suis dit que dans tous les cas, ça pouvait pas continuer, que c'était pas normal que je me retrouve à pleurer pendant qu'on avait des rapports. Et que dans tous les cas, il allait falloir qu'on parle. Avant que j'aie le temps d'en discuter, un soir, il a recommencé à avoir des oui, là où pour le coup, il n'y en avait absolument pas, mais là, vraiment pas du tout. Donc il a fait son affaire, et lui, après, il s'est endormi, normal. Le lendemain, impossible pour moi de me comporter normalement. J'étais complètement perdue, je savais pas quoi dire, ça avait été horrible pour moi. C'est lui qui a fini par me demander pourquoi j'étais aussi distante sur toute la journée, et qui s'est demandé qui m'a demandé clairement s'il y avait eu un truc la veille qui s'était mal passé. Du coup, je lui ai amené à réaliser lui-même ce qu'il avait fait. En discutant, en fait, c'est lui qui a fini par employer le mot viol en premier, qui après une longue discussion a même conclu que pendant des mois et des mois, en fait, il m'avait harcelé, qu'il avait fait une obsession sur le fait de me faire prendre mon pied alors que j'avais rien demandé. Qu'en fait, effectivement, mes silences, mes hésitations, le fait que je ne lui réponde pas pendant nos actes étaient suffisamment clairs, que effectivement, mes non-désirs n'avaient en aucun cas à passer après ces désirs. Le consentement, il a pris une toute autre réflexion dans notre couple. Bah, il n'y a pas à avoir de non verbal ou d'avoir à pousser l'autre pour que l'autre personne nous comprenne. On est censé faire attention à l'autre et savoir respecter ses silences.
Waouh, Lisa.
Ouais. Ouais, bravo. Merci beaucoup pour ton témoignage et bravo. C'est très, très courageux d'oser raconter cette histoire.
Ouais, et d'avoir osé lui en parler aussi.
Ouais, ça c'est clair. Il y a beaucoup de choses qui sont très graves dans ce témoignage. Bah, avant tout, le manque de consentement. On peut rappeler que le consentement n'est pas une option, même quand on est en couple, quand on est en couple depuis longtemps. Il faut toujours s'assurer que la personne est d'accord pour avoir un rapport.
Et que le sexe n'est pas un putain de devoir.
Voilà, exactement. Absolument pas, mais ça c'est des héritages d'un ancien temps qui n'est pas si loin que ça finalement. Il y a aussi le mythe de la femme frigide, mais en même temps je comprends pas, on doit jouir ou on doit pas jouir, enfin de toute façon on est tout le temps perdante quoi qu'on fasse.
Bah oui, de la dévergonder à la frigide.
Si voilà. Tu jouis trop fort t'es une pute, si tu jouis pas t'es frigide, de toute façon il y a toujours quelque chose qui va pas.
Ça n'ira jamais.
Et après, je me dis quel manque de connexion il peut y avoir pour que le mec ne se rende pas compte que sa copine est en train de pleurer pendant un rapport.
Non, mais c'est incroyable.
Hallucinant.
Elle le disait qu'ils étaient dans le noir et que qu'elle a vraiment pas fait un bruit du tout.
Ouais.
Au moment, en fait, elle cachait finalement ses.
Bien sûr.
Ses émotions, donc il n'a pas été du tout réceptif, non. Effectivement, à son langage corporel. Enfin,
c'est ça.
Il y a des mecs qui ne voient pas de problème à être en train de baiser une étoile de mer, quoi.
Voilà.
C'est, non, en fait, si tu as quelqu'un en dessous qui n'est pas en train de prendre son pied, c'est que ça ne va pas. Et il faut être attentif à ces choses-là.
Exactement. Effectivement, le fait que la fille soit totalement passive et qu'elle n'ait aucune réaction, ça devrait être une alerte, en fait, pour le mec, quoi.
Complètement.
Voilà, après, je pense que ça nous est tout arrivé de se forcer et c'est très, très, très problématique et il ne faut pas le faire. Il faut toujours se poser la question, est-ce que j'en ai vraiment envie, en fait ? Et si vous n'en avez pas envie, vous avez toujours le droit de dire non, quoi. Mais vraiment, peu importe si le mec, après, il va dire « Ah non, mais t'es une allumeuse, on s'en fout, enfin, c'est pas le problème. » Si vous n'avez plus envie, et que, même si vous aviez envie 5 minutes avant, c'est stop, quoi. Il y a un chiffre qui dit que 16% des jeunes filles avouent que leur premier rapport sexuel n'était pas consenti.
Ouais, c'est énorme. Moi, je pense que ça part vraiment de là, en fait. On part sur une base déjà dans notre inconscient, dans notre éducation. On se dit, on est là, en fait, pour faire plaisir à un mec et que notre désir, finalement, passe après. Et totalement. Du coup, ça met des années. Enfin, moi, je parle pour mon cas, mais ça m'est arrivé de me forcer. Et ça met des années ensuite à te dire, bah non, en fait, j'ai le droit de dire non.
Ouais.
Et j'arrive à là, j'arrive à 32 ans. Je pense que ça fait peut-être 2-3 ans maintenant que je suis consciente du fait que non, quand j'ai pas envie. Eh ben, je peux dire non,
ouais, carrément.
Et que j'ai pas du tout, mais jamais, à me forcer. Et bizarrement, quand on prend conscience de ça, ben, c'est là qu'on a plus de désir, en fait. Enfin, c'est ça qui est complètement dingue. À partir du moment où on reprend ce pouvoir de se dire, ben, j'ai le droit de dire non, et du coup, j'ai le droit de dire oui, et peut-être d'aller chercher le rapport aussi, et ben, ça libère un peu la libido, en fait. Enfin, pour mon cas, je parle pour mon cas.
Oui, ça change la dynamique. Après, oui, ça dépend effectivement si t'es en couple. Si t'es,
évidemment.
Mais oui, moi aussi, je pense que c'est ces dernières années que j'ai vraiment pris conscience qu'en fait, je m'étais forcée plein de fois, et c'est juste un truc de ouf, en fait. Hein.
Moi, j'ai mis très longtemps à mettre le mot viol sur ce qui s'était passé avec mon ex. J'en parle publiquement parce que maintenant, j'ai décidé que je l'enverrais à la gueule de n'importe quelle personne qui rigole sur le viol, etc. J'ai décidé que ce ne serait pas un secret et que ce ne serait plus une souffrance. Mais pendant longtemps, ça a quand même pas mal détraqué mes rapports sexuels. J'étais dans la peur, du coup. Parce que, comme elle disait, elle a été harcelée par son mec.
Ouais.
Moi, c'était pareil. C'était du chantage affectif. J'avais peur qu'il y ait des crises de nerfs. Et donc, pour éviter des crises de nerfs, je préférais laisser faire ça plutôt que d'avoir droit, encore une fois, à une engueulade hyper flippante, quoi. Donc, c'était du chantage affectif, toutes ces choses-là. Effectivement, du harcèlement. Et ça m'a mise à genoux pendant un moment, mais effectivement, depuis un an ou deux, j'essaie de me concentrer. Mais déjà, je choisis mieux mes partenaires, en fait.
Ah oui, ça c'est.
Et des partenaires qui sont plus bienveillants, qui font attention à moi. Et ça, déjà, ça change tout, parce qu'il faut juste arrêter de coucher avec des connards.
Ouais.
Et déjà, c'est une première solution. Tu vois. Bon, après, tu peux pas forcément les détecter, tu leur fais pas passer un questionnaire avant de les mettre au lit, quoi. Donc,
c'est vrai qu'il peut y avoir des signes.
Mais il peut y avoir des signes d'égoïsme, qui n'est pas attentif.
De manière générale.
C'est ça. Donc, faut pas hésiter, en tout cas, à faire attention, à faire gaffe à son instinct et à parler, à communiquer. Encore une fois, on le disait, je trouve ça hyper fort qu'elle ait réussi à en parler avec lui
et qu'il mette
le mot viol dessus. Ouais, quoi. Ouais. C'est hyper fort. Moi, j'ai jamais réussi à en parler à mon ex. Hein.
C'est ça. C'est pas juste à nous de faire un travail sur nous, mais c'est aussi au mec, en fait.
Ouais.
Et c'est ce que montre le témoignage de Lisa.
Ouais.
Ouais.
Bravo Lisa, en tout cas, on t'envoie plein de soutien, on te félicite pour tout ton courage et on espère que tout se passe bien maintenant pour toi. Bien, on passe à Rose. Rose, elle nous raconte le rapport qu'elle a eu avec un ami et comment elle s'est retrouvée à faire de l'éducation sexuelle à un homme qui se dit pourtant féministe et qui est plus âgé qu'elle.
Donc, il commence à me caresser. En fait, on aurait eu l'impression qu'il ne voyait mon sexe que comme un simple trou. Un trou. Donc, il a fait, en fait, la chose classique d'imiter la pénétration avec ses doigts. Donc quelque chose de rapide et qui ne touche rien autour du fameux trou. On n'est pas des machines, il n'y a pas un bouton qui fait que ça marche. Mais bon, je trouve ça très marrant de faire avec tes doigts exactement ce que tu fais avec ta bite, quoi. Alors que si t'as des doigts, c'est pas pour rien. Ce qu'il faisait là, ça ne me faisait rien du tout. Du coup, voilà, je ne montrais aucun signe de plaisir. Donc dans ma tête, c'était la grosse AG, c'était « mais ok, qu'est-ce qu'on fait là ?» Pourquoi il remarque pas que ça me fait rien? Pourquoi il continue, en fait? Je prends la main, je lui enlève de mon entrejambe et je lui dis « écoute, mec, là, non, quoi, c'est pas possible. » Donc lui, il était hyper « ah bon, ça te fait mal ?» Donc je lui explique que non, ça fait pas mal, ça fait juste rien. Je lui frotte le poignet de façon très prosaïque, sans aucune connotation sexuelle, et je lui dis « bah voilà, ça fait ça. » Bon, il en a ri, heureusement. Je vais faire un cours d'anatomie à 3h du matin. C'est ma spécialité maintenant depuis quelques années. Je deviens prof de SVT nocturne. Et donc je lui explique ça et je lui dis voilà, là ce que tu viens de faire, en fait c'est tout ce que j'aime pas. En tout cas là, non quoi. Généralement on essaye d'un peu explorer la vulve autour du trou et le gland du clitoris avant d'aller à cet endroit là. Donc je lui explique, je lui dis tout ça. Et il était hyper gêné. Il était dégoûté quoi. En plus il était plus vieux que moi donc il se sentait un peu atteint dans sa maturité sexuelle, ça m'a fait beaucoup rire. Il s'est excusé, mais bon, au final, on n'a pas fait l'amour, quoi, parce que ça a un peu cassé le moment. On s'est pas du tout quitté en mauvais termes. Il était hyper compréhensif et j'espère qu'il prendra en compte ce que je lui ai dit les prochaines fois où il fera l'amour avec moi ou avec d'autres gens. Déjà, si le ou la partenaire prend mal le fait qu'on parle de ça, c'est qu'il ou elle n'en vaut pas le coup. Maintenant, ça fait un super filtre à con. Ouais, un filtre à bite plutôt. J'en ai marre, quoi. J'ai trop subi le sexe douloureux et qu'on m'avait dit que c'était normal d'avoir mal pendant le sexe, donc j'ai laissé passer. J'ai trop subi le sexe ennuyeux, mais que vu qu'on m'a appris que c'était pas à moi d'imposer mes désirs parce que je suis une femme, et bah du coup, j'ai rien dit. Disons que quand le sexe était nul, pour moi, c'était normal. Parce que je savais pas qu'il y avait mieux. Maintenant, en fait, j'hésite plus à être exigeante, entre guillemets, je n'impose pas, mais j'en parle. Je dis voilà, ça j'aime pas, ça c'est non, ça plus comme ça. Mais j'encourage aussi l'autre, après je lui pose des questions, je l'encourage aussi à pas hésiter à me dire ce que lui aussi il aime, donc dans mon cas, des partenaires masculins, pour l'instant. Maintenant, je peux que être contente d'avoir pris mon courage à deux mains et de lui avoir dit, quoi. Parce que sinon, ça aurait fait quoi? Sinon, on serait arrivé à la pénétration et ça m'aurait fait mal, en fait. Donc, il y en a marre de ça. J'espère que d'autres pourront le faire, auront le courage d'assumer leur corps. D'assumer leurs désirs, d'assumer leurs plaisirs, d'assumer leurs exigences.
Rose, wow. Je précise, elle a 20 ans, voilà, wow. Aussi. Hein.
Mega warrior.
Tout est parfaitement câblé, enfin son discours est parfait. Elle soulève un nombre de points intéressants pas possible.
Ouais, franchement c'est.
Et notamment un truc qu'elle dit, alors elle le développait un peu plus dans le témoignage à l'origine, mais c'était elle a fait un témoignage d'un quart d'heure à la base, donc elle avait énormément de choses à dire. Ouais. Et donc le fait que quand elle stoppe le mec lui dise quoi, ça fait mal. Et elle explique qu'il y a toujours cette dichotomie, si la femme n'aime pas, c'est que c'est douloureux, ça peut pas. C'est la douleur est considérée comme acceptable et limite incontournable, en fait. On nous a toujours dit que le sexe, ça ferait mal, que la première fois, ça ferait mal. Et donc, c'est rentré à la tête de tout le monde. Et ça me fait penser, du coup, à un ex que je balance parce que je m'en fous. Je lui en ai parlé, donc il est con. Je le nomme pas, par contre.
Attention,
mais,
c'est la journée des ex, là.
Complet, c'est là. Ils prennent tarif. Et donc, il voulait qu'on change de position et il se trouve qu'il était particulièrement équipé, quoi. Et je lui dis, non, cette position me fait mal. Et là, il me répond, ouais, mais sinon, je rentre pas en entier. Non, alors que je venais de dire que ça me faisait mal. Enfin, à quel moment c'est normal que ça me fasse mal et que toi ça te fasse du bien? Enfin, il y a un vrai problème, quoi.
C'est vraiment un bourrin. C'est vraiment, tu sais, comme les enfants qui mettent les trucs dans.
Tu essaies de faire rentrer un carré dans un rond.
Ouais, voilà, ça...
Mais ça va rentrer, merde.
Ah, d'accord. Ok.
Exactement. Donc bon, du coup, je trouve que elle lui a fait vraiment un plan pédago merveilleux. Le fait de parler de communication, effectivement, le fait que toi tu t'autorises à parler de ce que tu veux, ça autorise l'autre aussi, et donc finalement ça optimise mes puissances 8000, le rapport sexuel, c'est génial pour tout le monde, le fait de se parler. Et ce qu'on note, c'est que bah, encore une fois, c'est à la femme de prendre les choses en main, alors que les hommes ont tout le contenu possible et imaginable pour se renseigner sur la sexualité, sur comment donner du plaisir aux femmes, etc. Donc ça rejoint les concepts de charge orgasmique, de charge sexuelle, de charge érotique, dont nous parle la journaliste Clémentine Gallo dans un article qu'elle a publié sur Slate récemment, qu'on mettra en lien. En effet, en plus d'être plus préoccupées par le plaisir de leur partenaire que par le leur, les femmes passent, tu le disais tout à l'heure Elsa, beaucoup de temps et d'argent à rendre leur corps désirable, à faire en sorte que la vie affective et sexuelle soit la plus fluide possible. Donc entre épilation, régime, lingerie, contraception, suivi médical, santé sexuelle. Et c'est de l'énergie, c'est de l'argent aussi. Tout ça pour le sexe. Donc je vous recommande aussi à ce sujet un article du collectif Le Seum qui est titré « Rien ne doit dépasser ». C'est en deux épisodes, épisode 1 « Les poils », épisode 2 « La préparation du sexe ». Je vous mets aussi les liens dans la description. Il y a une vraie question que je me pose, c'est qui a appelé les préliminaires préliminaires?
Préliminaire à quoi?
C'est l'entrée.
Monsieur préliminaire. Pourquoi ce serait pas juste un véritable plat de résistance? Pourquoi quand on est hétéro, il faut absolument et systématiquement passer par la pénétration alors que ça devient une espèce d'épée de Damoclès intégrale et c'est super chiant? Donc débarrassons-nous aussi de cette obligation. Grève de la pénétration.
Allez,
la troisième grève.
C'est fini.
Va falloir commencer à faire jouer votre imagination, messieurs.
Il y a plein de choses à faire sans que tout tourne autour du pénis. Vraiment plein de choses. Et du pénis dans le vagin, parce que le pénis hors du vagin, on peut lui faire aussi plein de choses, c'est merveilleux. Donc j'espère que mes partenaires et futurs partenaires m'entendent. Ceci est un appel du pied absolument pas subtil. Passons-nous de cette étape, essayons s'il vous plaît, ça va être chambé. Mise à effet,
attention,
mise en effet
attention.
Immédiat. On passe à notre dernière warrior de l'épisode.
Maintenant que tu as fait ton ta tribune,
c'est mon épisode préféré. Je me lâche.
Bon, et des fois, bon, il y a aussi les pratiques sexuelles dont on a envie. Il y a aussi les pratiques sexuelles des fois qu'on nous impose, alors qu'on a clairement dit non, qu'on n'en voulait pas. Mmh. Et pas de chance. Alors Julie, elle est tombée sur un de ces connards égoïstes un jour à un date Tinder. Mais comme c'est une sacrée warrior, elle a su direct lui rendre l'appareil.
Intégralement.
On discute, il lance un film et puis je suis pas venue pour voir un film. Bref, on commence à s'embrasser, on se déshabille et je comprends qu'il veut une fellation. Je suis ok, mais je lui dis préviens-moi quand tu sens que tu vas éjaculer, car je ne suis pas une femme de sperme et encore moins d'un mec que je ne connais pas. Et arrive ce qui devait arriver, je sens qu'il vient, et avant que j'aie le temps de me retirer, je reçois tout son foutre dans la bouche. Et là, je suis assez colère parce que je l'ai prévenu et qu'il n'a pas respecté ce que je lui avais dit, quoi. Donc je garde, en fait, tout son foutre dans la bouche. Je me relève, je lui roule une grosse pelle avec tout son sperme que je lui rends. Il me regarde interloqué et il me dit « Mais il vient de se passer quoi là ? Tu aurais pu me prévenir, c'est vraiment dégueu. » Je le regarde dans les yeux et je dis « Oui, c'est toujours dégueu quand on ne prévient pas. » Je me suis rhabillée assez vite et suis partie telle une princesse sur sa licorne et j'ai retrouvé mes jouets en rentrant qui m'ont procuré beaucoup de plaisir après un bon brossage dedans.
Je suis complètement fan. Julie.
Bravo Julie.
Bravo. C'est génial, c'est tellement inattendu, j'avais jamais entendu une meuf avoir une telle réaction, je trouve ça
trop bien.
Merveilleux, c'est super courageux, c'est plein de leçons.
Et donc c'est le moment de rappeler, non, on n'impose pas ses désirs à sa partenaire, des pratiques qu'elle a clairement dit qu'elle ne voulait pas. On peut parler d'éjaculer dans la bouche, mais ça peut être aussi... la pénétration par l'anus par exemple, si la femme ne veut pas on le fait pas en fait,
quoi que ce soit
n'importe quoi,
on fait pas de surprise globalement
Donc voilà, il faut... Soyez ferme, hein, les warriors, c'est votre corps, personne n'a le droit
personne.
De vous imposer quoi que ce soit. Et vous avez aussi le droit, on va faire le petit point prévention qu'on n'a pas encore fait, mais vous avez aussi le droit d'exiger d'être protégé.
Oui.
Et c'est pas parce que le mec en face, il a l'air clean, propre sur lui, machin, qu'il n'a pas la chlamydia, en fait. Hein, ça ne voit pas sur la
tête.
Tout
le monde a la chlamydia, sachez-le.
Donc voilà, donc, vous avez le droit aussi d'exiger la capote. D'ailleurs, c'est considéré comme un viol maintenant. Si un partenaire enlève la capote pendant l'acte sans votre consentement et donc éjacule en vous sans votre consentement, c'est un viol. Voilà. Il faut le savoir.
Et c'est pas si rare que ça arrive en fait. Bon, bref. Nous passons à la rubrique self-care. Bah du coup, c'est encore moi qui parle.
Allez, ça y est, Anaïs, elle tient le micro jusqu'à la fin de l'émission.
Moi, j'aurais pu faire un épisode de 8 jours sans problème sur ce sujet-là. J'en ai déjà évoqué un des deux, mais moi, il y a peu de temps, après une soirée bien arrosée, à 4h du matin, et après un date Tinder, après un peu foireux d'ailleurs.
Comme Julie ou...
Non, là, j'ai rien fait, j'avais pas envie, j'ai rien fait du tout, d'accord. Parce que je m'écoute un peu plus maintenant. Fut un temps, j'aurais pu me sentir obligée de faire un truc après le date, mais ce n'est plus le cas.
Non.
Donc, il s'est rien passé, mais après, j'ai prolongé la soirée avec des potes, etc. Bref, je rentre chez moi. Je suis un peu chafouin et je me mets à écrire des mails à deux de mes ex pour leur expliquer en quoi ils ont été violents dans la sexualité avec moi ou en quoi ils m'ont mal baisé. Donc le lendemain, quand je me suis réveillée, j'étais mortifiée en train de me rappeler ce que j'avais envoyé ces mails-là. Je me disais, merde, quelle connerie j'ai encore fait. Et en fait, plus je prends de recul, plus je me dis que c'était trop bien d'avoir fait ça.
Ouais.
Déjà parce qu'en plus, ils ont bien accueilli ma parole, ils se sont excusés, etc. Donc il y a celui qui n'a pas entendu quand je lui ai dit qu'il me faisait mal. Et il y en a un autre qui m'a annoncé un mois plus tard, une fois qu'il a fait des tests, un dépistage, et qu'il s'est rendu compte qu'il allait bien, qui m'a dit, au cas où tu te poserais la question, j'ai fait un test, tout va bien. Je dis, on s'est protégé, donc je ne me posais pas la question. Ah mais non, en fait, la capote avait craqué un mois plus tard. Donc on tente de te dire que moi, j'étais sur le coup toute soumise que je suis, j'ai même pas osé m'énerver. Donc c'est 3 ans plus tard que je lui ai envoyé un mail en disant c'est pas normal, j'aurais pu être enceinte, etc. Enfin, je l'ai pourri. Il a très très bien réagi et en fait ça m'a fait le plus grand bien de le formuler, que ce soit juste après, des semaines après ou des mois après, voire des années, de ne pas garder ça pour soi. En fait, il y a des épisodes qu'on a vécu comme violents, des fois on s'en rend compte aussi longtemps après. Ne pas hésiter à le dire, à l'exprimer et ne pas le garder pour soi, ça fait le plus grand bien, vraiment. Et du coup, moi, depuis que j'ai fait ça, je me suis dit, maintenant, ce sera en direct. Je ne me retiendrai plus jamais de dire quand il y a un problème, quand il y a quelque chose qui me gêne, quand il y a quelque chose qui me fait mal, quand il y a quelque chose que j'ai pas envie de faire. C'est un peu le fil rouge de tous les témoignages qu'on a eus, en fait, hein, le fait aussi de s'autoriser à dire, à exiger, etc. C'est le respect de soi, ça commence par là, et exiger qu'on nous respecte. Donc, c'est un truc que je recommande en termes de self-care, s'il y a des choses que vous avez mal vécues dans vos vies, alors évidemment, faut pas l'envoyer au connard violent parce que vous savez que ça va peut-être créer des conflits. Moi, j'ai pas raconté à mon violeur qui m'avait violé, hein, mais voilà, s'il y a des gens qui sont un peu intelligents dans vos ex, vous savez qu'ils peuvent accueillir cette parole-là. Franchement, ça donne des discussions assez constructives et ça fait vraiment du bien au moral et à l'ego.
Exactement, et puis ça fera peut-être bien à la sexualité en général, parce que du coup peut-être qu'ils y penseront avec leur
pour
les futurs partenaires.
Voilà,
aussi.
Et à chaque fois je leur ai dit, donc il y en a un qui est avec une nana, donc je lui ai dit prends soin de ta meuf à l'heure actuelle. Il y a aussi une sorte d'acte de sororité là-dedans, de se dire en fait si je dis rien, alors c'est pas pour culpabiliser les meufs qui disent rien, mais moi au bout d'un moment j'ai eu le sentiment de me dire s'il refait mal à une autre autre femme derrière, ça le fait pas. Donc en fait en lui disant je pars ses prochaines partenaires de ce genre de violence là. Donc voilà, il y a aussi un acte solidaire dans cet acte égoïste.
Ouais, parce qu'on sait qu'ils sont conditionnés à être comme ça et que souvent ils se rendent même pas compte la violence qu'ils infligent.
Ah mais ils tombent des nues.
Donc effectivement, il faut surtout pas hésiter à leur dire parce que eux ils s'en rendent pas compte par eux-mêmes bizarrement, mais
Donc voilà, tout ce que toutes les warriors ont dit. Penser à soi, prendre soin de soi, ne pas hésiter à formuler, à dire les choses, je pense que c'est la clé d'une chouette sexualité.
Carrément.
C'est très bien parlé, Anaïs. Et tu vas maintenant encore garder le micro parce que c'est toi qui vas nous présenter la warrior du mois. Alors on va parler là d'Instagram et c'est vrai que sur Instagram en ce moment il y a pléthore de comptes qui parlent de plaisir féminin et c'est super. Mais bon, parfois il y a
Des déconvenus
des déconvenus, voilà, sur ce réseau social. Et tu vas donc nous présenter June, c'est ça ?
June.
June, oh pardon.
Ouais, du coup, June, c'est l'illustratrice qui est derrière Jouissance Club. Si vous ne connaissez pas, je vous recommande de foncer voir.
Ah, allez tous la suivre.
Ouais, c'est un compte Instagram qui publie, elle publie des dessins et des textes explicatifs de techniques super pédagogiques pour optimiser le plaisir au lit, qu'on soit équipé d'une vulve ou d'un pénis. C'est super instructif, c'est inclusif. C'est inspirant, on y apprend beaucoup sur notre corps et le corps des autres dans toute leur diversité. Donc autant vous dire qu'elle fait un boulot d'utilité publique. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai demandé à June si elle avait une victoire au lit à nous raconter. Et elle m'a confié que son tout premier dessin lui a permis d'expliquer à son mec comment la doigter. Et que depuis, elle n'a même plus besoin de parler, puisque du coup, il suit son compte Instagram et que c'est réglé. Donc c'est pas la moitié d'une victoire qu'elle partage maintenant avec le plus grand nombre, parce qu'en plus, la meuf est tout sauf égoïste.
Donc je vais demander à mon mec s'il peut aller la suivre en fait.
Il faut que tous les hommes, enfin il faut que tout le monde suive Jouissance Club de manière générale quoi. Donc il y a quand même un mais. Instagram n'arrête pas de censurer son compte et elle est pas la seule puisque c'est le compte de plein de le cas de plein de comptes féministes et notamment qui parlent de sexualité, de menstruation, etc. Donc comme Clit Revolution, 28 jours, je m'emballe clito, etc. Donc déjà on tenait à les encourager parce qu'elles produisent un contenu indispensable si on veut régler toutes les problématiques que nos warriors ont évoquées et parce que leur boulot crée des warriors mais à la chaîne.
C'est clair.
Donc en réaction elles se sont associées autour du hashtag sexuality is not dirty. Je l'ai bien dit ça.
Is not dirty.
Et depuis, c'est le bon gros buzz médiatique des Un Rock à Libé en passant par le Figaro. Tout le monde en parle, donc de quoi secouer Instagram, qui, comme beaucoup de réseaux sociaux, vous le savez, est nettement plus attentif et restrictif sur les corps des femmes et les questions relatives à leur sexualité que sur tout le reste. Alors qu'on a besoin de ce type de contenu, et c'est pas pornographique, hein, c'est important de le préciser. Donc, contrairement à ce qui a pu être affirmé, elles n'ont pas obtenu d'excuses de la part d'Instagram, mais le buzz a été tel que Jouissance Club, après avoir récupéré son compte qui était déjà à 100 000 abonnés, elle a gagné 50 000 abonnés de plus. Donc évidemment, c'est pas Instagram qui décide seul de censurer. Hein. C'est les comptes, elles sont en fait signalées en masse. Donc supposément,
on se demande bien par qui.
Voilà, ouais, mais exactement.
Supposément par des groupes qui s'opposent à l'émancipation des femmes, au droit à l'avortement, etc.
Nos gens préférés.
Donc leur travail, c'est non seulement une révolution contemporaine, mais c'est en plus de la résistance face aux forces rétrogrades et une bonne claque dans leur gueule, puisque la censure leur a donné encore plus de poids et de visibilité. Donc bravo à June, bravo à toutes celles qui nous ouvrent les yeux, qui nous enseignent ce qu'on devrait toutes savoir et qui emmerdent bien cordialement toutes celles et ceux que ça dérange.
Yes, et merci, merci, merci.
Merci mille fois. Bon, ben voilà, c'est déjà la fin de ce coquinou d'épisode. J'espère que ça vous a plu autant qu'à nous ou en tant qu'à moi. Moi, je crois que vous avez compris que j'ai kiffé.
Ouais, ça donne un peu envie de baiser, là.
Vas-y donc.
Marga.
On se lâche.
Donc, on remercie mille fois nos warriors du mois pour leur témoignage. Donc, merci à nos battantes Camille, Rose, Juliette, Lisa, Cécile et Dorothée. Bravo à vous et merci. Je vais personnellement mettre en application vos techniques dès ce soir. Grève de la fellation, grève de la pénétration.
Grève de tout.
Grève du sexe. Non, ça quand même...
Non, je n'y arriverai pas.
Dans le prochain épisode, le numéro 8, donc, on parlera de victoire sur le sexisme pendant la grossesse et l'accouchement. Vaste sujet à nouveau. Donc on remercie la Podcast Factory et notre réalisatrice Amida ainsi que Erwin qui fait la prise de son aujourd'hui. Si tu veux témoigner dans Yes, sache qu'on lance régulièrement des appels à témoignages sur Facebook, Twitter et Instagram.
Écris-nous.
Donc n'hésite pas à nous suivre et à nous écrire @yespodcast, Yes avec
3 S.
Merci. Tu peux aussi nous écouter sur toutes les plateformes de iTunes à Spotify en passant par Podcast Addict et toutes bonnes applications de podcast. Tu peux aussi nous laisser des suggestions de sujets sur tous les réseaux sociaux et dans les commentaires iTunes. On te dit à la prochaine et d'ici là, n'oublie pas, tu es canon, tu es sexy, tu es doué, tu gagnes à te connaître et à être connu, tu mérites de prendre ton pied si tu veux, où tu veux et quand tu veux. Bref, meuf, t'es une warrior.
Yes!